Bonjour, bienvenue sur France Bleu Gironde, place des grands hommes, le carrefour de toutes les rencontres. Notre invité, Didier Pourquery. Bonjour Didier Pourquery.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Journaliste natif de Florac, une carrière riche et ouverte dans la presse écrite qui passe par Le Monde, Science et Vie, Info Matin, La Tribune, VSD, L'Expansion, Métro, Libération. Pardonnez-moi si j'oublie des lignes sur votre CV. Vous dirigez aujourd'hui la présidence de la version française du site The Conversation. Vous êtes aussi président de Cap Science à Bordeaux. Vous êtes auteur, essayiste et vous venez de publier un livre remarquable qui, dans une époque polarisée et aussi excessive que vaine à certains égards, est absolument nécessaire pour apaiser nos esprits échauffés, déboussolés, assignés à la réaction instantanée. Réaction qui se résume à « j'aime » ou « je n'aime pas ». Ce livre porte le titre « Sauvons le débat, osons la nuance, nous allons cheminer, converser avec vous » et vous découvrir tout en nuances ce matin.
Place des grands hommes sur France Bleu Gironde, Rodolphe Martinez.
Didier Pourquery, pour commencer, les trois dates fondatrices. Le 6 juillet 1971.
Ah, et en fait, c'est la mort de Louis Armstrong. Je suis un fan de jazz. J'ai d'ailleurs écrit pas mal sur le jazz dans ma vie. Et c'était le jour de mon bac à Bordeaux. Et c'était difficile parce que je pleurais sans arrêt. Parce que mon héros était mort, Armstrong était mort. Et j'ai eu la chance de tomber sur un examinateur qui m'a fait, pour un oral, qui m'a trouvé très défait, mais qui m'a posé des questions générales. Et qui, on a parlé de jazz pendant une demi-heure et de biologie pendant les 10 minutes restantes et j'ai eu le bac.
Deuxième date, le 1er décembre de l'année 1986.
C'est le jour où je suis rentré au monde. Et en fait, c'était un peu, j'ai beaucoup pensé à mon père, donc moi je suis d'ici, je suis de la Bastide, enfin de Floirac, de la Bastide, de la Benauge. Un jour j'avais dit à mon père, comme ça je veux devenir journaliste quand je serai grand. Et il m'avait avait un peu rigolé, il avait dit d'accord mais au monde. Par ailleurs, il est mort jeune, donc il n'était pas là quand je suis rentré au monde, mais j'ai pensé très fort à lui ce jour-là, surtout que c'était dans l'ancien siège social du Monde, rue des Italiens, c'était un lieu mythique, etc. Et pour moi, qui étais un jeune journaliste, je sortais de 4 années de Libération, eh bien, c'était un grand moment.
Donc, une sorte de consécration, en quelque sorte.
Voilà. Enfin, pour moi, c'était un peu une consécration, en effet. Je suis un journaliste autodidacte. Enfin, j'ai fait des études, mais pas des études de journalisme. Et j'étais très, très heureux de me retrouver dans ce haut lieu du journalisme qu'est Le Monde.
On va revenir sur votre parcours professionnel. Le 10 août de l'année 2007.
Ça, c'est un drame. C'est le jour de la mort de ma fille Agathe, qui est morte de la mucoviscidose à 23 ans, après 2 greffes de poumon. Et j'ai écrit un livre.
L'été d'Agathe.
L'été d'Agathe, pour parler de ça. C'est une femme, une fille extraordinaire. Donc j'ai voulu écrire un livre pour la faire connaître à tout un tas de gens. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont écrit, etc. Ce livre a eu un bon retentissement, parce que notamment, il a été traduit aux États-Unis. J'ai été le lancer aux États-Unis, à New York, la ville rêvée d'Agathe. Elle adorait New York et elle rêvait d'être un jour psychanalyste à New York. Et voilà. Et donc, le 10 août 2007, c'est la fin de l'aventure d'Agathe, mais le début aussi d'un autre type de relation avec ma fille. Je précise que j'ai 2 autres filles aussi.
J'en profite d'ailleurs pour dire que les chercheurs ont besoin toujours de notre aide et de dons, bien évidemment, et pas simplement au moment du Téléthon en décembre. Donc, c'est chaque fois. Donc, si vous pouvez faire un don, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Didier Pourquery, d'avoir répondu avec sincérité à ces premières questions. 6 juillet 1971, 1er décembre 1986, 10 août 2007. On vous retrouve dans un instant sur France Bleu Gironde.
France Bleu Gironde. Place des grands hommes.
Place des grands hommes, comme tous les dimanches matins, avec notre invité Didier Pourquery, journaliste, essayiste, président de ce formidable paquebot du savoir qu'est Cap Science et président du site The Conversation version France. Nous avons beaucoup de choses à écouter de sa part et beaucoup de choses à raconter. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur les rêves et les projets du jeune homme Didier. Vous les avez évoqués très brièvement il y a de cela quelques secondes. Le jeune homme Didier qui a 14 ans lorsque les Beatles chantent Hey Jude en 1968. À quoi ressemble votre rive droite de l'époque, Didier ?
Pour moi, ça tournait autour du lycée. À l'époque, ça s'appelait pas encore le lycée François Mauriac. C'était juste le lycée de la Bastide, l'annexe de Michel Montaigne. Et on était, et à 14 ans, c'était pour moi les scouts, les pèlerinages, les choses comme ça, très catho. très engagé catho de gauche, en effet, tout à fait. Et beaucoup de rêves d'écriture. J'ai eu la chance, quand j'étais tout petit, d'avoir comme premier cadeau, vraiment, dès que j'ai su lire, une petite imprimerie, vous savez, ces petites imprimeries avec des tampons et tout ça, et puis une petite mini rotative. C'était très, très chouette. Et je m'amusais à faire des livres et tout ça. Et moi, j'ai toujours voulu écrire des choses. Mais, et pas écrire pour moi, écrire pour partager les choses que je connais, que je comprenais au fur et à mesure que je les comprenais.
Donc le journaliste est né très tôt, finalement.
Bon, en tout cas, c'était une manière de... J'avais envie, dès que j'avais appris quelque chose d'intéressant, de le partager. Donc j'écrivais des articles ou des petits trucs que j'imprimais pour partager ça. Et en fait, je me suis mis au journalisme uniquement pour ça, pour partager ce qui, a priori, est compliqué, notamment l'économie, puisque j'ai commencé comme journaliste économique.
Oui, parce que rappelons que vous avez fait Sciences Po Paris et puis l'ESSEC.
Et j'étais, après quelques années, je me suis retrouvé à Libération comme journaliste économique. Pour revenir à mes rêves, c'était ça. Et mon grand rêve, c'était d'aller étudier aux États-Unis, ce que j'ai fait d'ailleurs après... Un jour, j'ai vu une annonce pour une bourse au lycée Montaigne, où j'étais en terminale. Et j'ai déposé mon dossier, j'ai passé le concours et je suis parti un an aux États-Unis après le bac, dans le Missouri. Voilà.
Montaigne, qui est toujours une référence et que vous évoquez assez régulièrement Montaigne, donc, dans le livre que nous allons évoquer. Vous êtes intellectuellement brillant, Didier Pourquery, et pas une once de pédanterie chez vous, cette pédanterie que vous évoquez dans le livre.
La pédanterie, selon Montaigne... C'est intéressant, c'est-à-dire c'est un mélange d'arrogance qui est une spécialité française, comme vous le savez. Française, il y a des arrogants en Grande-Bretagne et en Espagne aussi, si on veut. Mais d'ailleurs, bizarrement, c'est les pays coloniaux qui ont développé des arrogances les plus costauds. Mais bon, en tout cas, nous, c'est une spécialité. Mais Montaigne, dès son époque, s'amuse à critiquer et à ceux qui ont une once de savoir et qui s'en targuent en permanence pour prendre le pouvoir sur les autres. On voit bien avec l'arrogance actuelle. L'arrogance, c'est souvent l'arrogance de la finance.
Ou l'arrogance politique.
Ou l'arrogance politique, c'est-à-dire des gens qui disent « évidemment, j'ai raison ». Évidemment, j'ai raison parce que... J'ai fait l'ENA, évidemment j'ai raison parce que j'ai été élu, évidemment j'ai raison parce que, etc. C'est une forme d'arrogance très française qui nuit au débat, évidemment, puisqu'on ne peut pas débattre avec un arrogant.
Vous avez fait une carrière assez formidable dans la presse. Il est difficile de la résumer. Vous avez monté le journal Métro, vous avez participé à de grandes aventures de presse, sauf peut-être la presse quotidienne régionale.
Non, et c'est pas faute, en effet, et c'est pas faute d'avoir essayé. Je considère que Métro...
C'était
de la
alors
presse.
Alors rappelons pour ceux qui
de la presse gratuite
pour les plus
de
jeunes
ville.
D'entre nous, c'était de la presse gratuite de ville.
Citadine, ouais. Et donc il y avait 9 métros en France. Et voilà, c'était un journal qui a duré 10 ans, qui était très très grand public. C'était pour moi, c'était la meilleure manière de partager des infos avec le très grand public. Ça correspondait à un moment où le papier n'était pas trop cher. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire de presse gratuite parce que le papier est très cher. Et puis, où on avait pas mal de... Il n'y avait pas encore le téléphone portable
qui a tout bouleversé.
Sous les yeux de tout le monde. Donc, voilà.
Vous avez aimé avoir de l'encre sur les mains. Vous aimez encore avoir de l'encre sur les mains.
Ah oui, moi, mes souvenirs justement du Monde en 86, c'était la magie de descendre une fois pour le bouclage à l'atelier. Alors, j'étais chef adjoint du service économique. Et je descendais à l'atelier et on montait les pages, etc. C'était vraiment magique de voir que on arrivait à 6h le matin, il n'y avait rien, et à midi, les rotatives commençaient à cracher des journaux sur le côté de la rue des Italiens, et il y avait des camionnettes qui venaient prendre les journaux. Tous les jours, on fabrique l'équivalent d'un énorme livre. avec des gens très motivés qui connaissent bien leur métier. Moi, j'ai commencé à travailler au Monde avant Internet, hein, 86. Après, j'y suis revenu entre 2009 et 2014. Mais au début, c'était vraiment tout à la main, j'allais dire, avec nos machines à écrire, des manières de faire le journal qui étaient très peu numérique, ouais. Très peu numérique.
Et il y avait effectivement ce sentiment absolument incroyable au petit matin lorsque les journaux partaient ficelés, voilà, qu'ils allaient dans les kiosques à journaux, qu'il y avait les crieurs aussi pour les distribuer. Et ça, effectivement, ça existe un peu moins aujourd'hui. Et là, c'est toute une époque qui donnait effectivement le bonheur d'avoir de l'encre sur les mains. On poursuit cette conversation avec notre invité Didier Pourquerie, je vous le rappelle, journaliste, pour son essai « Sauvons le débat, osons la nuance » aux presses de la Cité, un ouvrage salutaire dans un monde, dans une époque qui ne doute de rien et qui aussi doute de tout.
Ils font l'actualité en Gironde, ils sont dans Place des Grands Hommes, sur France Bleu.
Bon dimanche matin avec nous, Place des Grands Hommes. Comme chaque dimanche, nous sommes en compagnie de Didier Pourquerie, journaliste depuis les années 80, rédacteur en chef de la Tribune, Métro, Libé, Le Monde, président du site The Conversation France et président de Cap Science à Bordeaux. Il vient de publier un formidable livre, Sauvons le débat, osons la nuance, qui se lie avec gourmandise et qui, c'est tout l'intérêt de ce livre, dit ce qu'un grand nombre d'entre nous peuvent ressentir dans cette époque bavarde, dans cette époque de clash et de polémiques incessantes et, disons-le, assez épuisantes. Est-ce que vous êtes le premier journaliste à écrire, d'une certaine manière, « Ça suffit, prenons du recul, ralentissons », Didier Pourquerie ?
Non, parce que il y a quelques années, il y a eu un mouvement, il y a 5-6 ans, ce qu'on appelle les « slow médias ». C'est-à-dire des médias où les papiers sont plus longs, où on a un peu de recul, on prend le temps de lire quelque chose qui a pris le temps d'être fait longuement pour parler de choses qui sont autour de nous en Gironde. Une revue comme Far West, par exemple, Far West fait du slow média. Et c'est-à-dire fait du reportage au long cours, etc. Et il y a pas mal de gens qui commencent à se dire l'actualité, le flot continu d'actualité m'épuise, me stresse. Moi, j'ai besoin d'avoir du sens. Et pour avoir du sens, il faut ralentir. Pour comprendre ce qui se passe, il faut ralentir un peu.
Vous utilisez d'ailleurs un terme, hein, c'est pas un terme que vous avez inventé, c'est l'infobésité.
Oui.
C'est-à-dire trop d'infos, on devient dingue parce qu'on a trop d'infos. Et en fait, toute cette information ne nous demande qu'une chose, c'est de réagir en permanence et de surréagir.
La comparaison, c'est entre le... D'ailleurs, j'ai commis un livre qui s'appelle « Le hamburger frites », une histoire de hamburger frites. C'est un peu comme le fast-food, l'information. Aujourd'hui, c'est ce que... Un sociologue qui s'appelle Musée, Denis Musée, appelait la malinfo, comme la malbouffe. Et cette malinfo, elle est à la fois très rapide, très copieuse, de la même façon que dans l'hamburger, il y a beaucoup de sucre qui fait qu'on s'attache au hamburger et on en reprend. Là, l'info, elle nous fait réagir, elle suscite beaucoup d'émotions. Et au bout d'un moment, ces émotions, qu'on traduit par des émoticônes, des émojis, des pouces en l'air, peu importe, hein, des émotions de base. Et ces émotions de base, petit à petit, on devient accro à ça. Et on ne fait plus que réagir à l'info. C'est en ce sens-là que c'est de l'infobésité. On en a trop. Étienne Klein, que je cite dans mon livre,
parle de... Qui est un philosophe des sciences, un scientifique lui-même. Oui. Et vous êtes très attaché à la culture scientifique, Didier Pourquerie.
En effet. Et Étienne Klein dit, on vit un moment de changement anthropologique. Notre cerveau n'est pas outillé pour traiter autant d'infos. Bah, donc, on ne fait que réagir avec colère, on adore, on rejette, on porte au pinacle, avec des émotions et des réactions. Et donc, tout ça n'est pas très nuancé, vous voyez. Et donc, au bout d'un moment, on se sent submergé.
Alors qu'on nous vend comme multitâche. Hein. En permanence, on nous dit qu'on est multitâche.
On est multitâche.
Les scientifiques disent non. L'être humain n'est pas multitâche.
Ben, c'est-à-dire que pour ce genre d'informations, on nous somme de nous intéresser à des choses qu'autrefois on ne savait même pas. Et on ne les savait même pas, donc on n'a pas les outils dans la tête pour les analyser. Or, il n'y a pas assez de médias qui font le travail. Alors, je prêche pour ma paroisse parce que moi, je dirige...
The Conversation, qui est un slow média, en l'occurrence.
Voilà, un slow média et un média d'analyse, pas d'opinion. Nous, on fournit de l'analyse. Et on fournit de l'analyse sur des sujets, en effet, assez compliqués. Et comme ça, si on veut prendre un peu de recul et essayer de chercher du sens à ce qu'on a entendu, ben voilà, il faut aller chercher de l'expertise, mais de la vraie expertise. Pas l'expertise des plateaux télé avec des experts autoproclamés, mais des vrais experts, des gens qui sont enseignants-chercheurs à l'Université de Bordeaux, à la Sorbonne, ou que sais-je, et qui ont passé des années et des années à travailler sur le sujet. Eux, ils sont capables de nous porter des analyses intéressantes.
Voilà, ils ne passent pas de plateau en plateau, en ayant parfois un avis différent en fonction du plateau sur lequel ils se trouvent. Et on n'est pas obligé d'avoir une opinion, c'est ce que vous dites dans ce livre, ou en tout cas immédiatement. On peut prendre le temps pour réfléchir, c'est le sens donc de ce mot nuance. Vous restez avec nous, Didier Pourquery. Contrairement à ce qu'il écrit de lui dans son essai « Sauvons le débat », c'est un très bon client tout en nuances. Il est notre invité dans Place des Grands Hommes.
Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde.
Place des Grands Hommes, notre invité Didier Pourquery, journaliste. Il a été, entre autres, directeur du Monde Magazine. Il est passé par de nombreux organes de presse, a fondé Métro. Et aujourd'hui, il est président de Cap Science. Cap Science, vous savez, c'est sur les quais, c'est cet endroit formidable dont nous aurons l'occasion de reparler. Et puis, il est aussi président de The Conversation. On poursuit cette conversation autour de votre livre qui vient de paraître « Sauvons le débat, osons la nuance ». Voilà, pour éviter d'avoir des opinions définitives et ce que nous vivons dans notre époque, c'est-à-dire en fait des clashs en permanence sur les plateaux de télévision, puis ensuite ces clashs sont repris. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que c'est important.
Alors le système, il est assez bien rodé, pour faire de l'audience, déjà les télévisions, pour faire de l'audience pas chère, c'est simple, vous prenez un plateau télé, vous prenez des invités, donc vous les payez pas, et les invités, moi j'ai fait ça assez longtemps, et... On a envie de parler, de représenter notre média, donc je représentais Métro, je représentais Le Monde, je représentais, voilà. Donc j'allais à des tables rondes comme ça, sur des plateaux, et on est censé émettre des opinions bien tranchées, bien polémiques, pour créer quelque chose qui s'apparente à du clash, quoi. Et s'il y a un bon moment de clash, un bon moment de radio comme, ou de télé, ça devient une petite pastille sur les réseaux sociaux. Une petite vidéo, par exemple.
Il y a toutes les chances de devenir viral.
Qui devient viral. Et c'est comme ça, si vous voulez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, et en général, ce qu'on appelle les GAFA, les Google, Apple, Amazon, Facebook, tous ces gens-là, ils travaillent sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il faut capter notre attention, qui est fuyante et qui est difficile à attraper, pour la traduire en audience et pour la traduire en argent, sonnant et trébuchant, c'est-à-dire avec de la pub, pour faire venir de la pub, d'accord ? Plus il y a de l'audience, plus il y a de la pub. Et donc, comment est-ce qu'on fabrique cette attention ? On fabrique cette attention non pas en faisant des choses très intéressantes, très enrichissantes, etc. On fabrique cette attention en faisant de l'émotion, en suscitant de la colère, en suscitant de l'adhésion sans condition, en suscitant des choses extrêmes. Et en tout cas, de l'émotion. Et cette émotion, ben, comment on va la fabriquer pour pas cher? Eh bien, ça peut être en faisant, en mettant ensemble, des polémistes et en les faisant s'engueuler.
S'écharper, voilà. Comme on le voit tous les soirs sur les plateaux de télévision. Et vous avez donné un chiffre, 9 secondes d'attention, hein, c'est la moyenne pour un être humain. 9 secondes d'attention.
On a une attention de plus en plus zappante, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on passe d'un élément à l'autre à toute allure.
C'est une économie de l'impatience.
Alors c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas envie, on a envie d'attraper tout de suite quelque chose. Et franchement, ce qui est le plus facile à attraper, c'est pas une information compliquée, c'est une information qui crée de l'émotion.
Eh bien, on va voir comment la nuance peut nous sauver de ça. Vous restez avec nous, Didier Pourquery, vous êtes notre invité dans Place des Grands Hommes. On se retrouve d'ici quelques instants pour la troisième partie de cette conversation. Justement, à propos de conversation, il y a le site The Conversation que vous présidez et Cap Science à Bordeaux pour en savoir plus, pour avoir une approche peut-être plus scientifique, entre autres de la problématique dont nous parlons ce matin. Excellente matinée. France Place des Grands Hommes, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie de Didier Pourquery, heureux d'être retour en terre girondine, enfin il y revient...
Tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, voilà, il va dans son sud de la Gironde, dans le secteur du Langonnais, qui est si beau. Merci en tout cas de partager ce moment avec nous pour parler de votre essai « Sauvons le débat, osons la nuance » aux presses de la cité. En fait, vous êtes intéressé à l'emballement médiatique que nous vivons, aux polémiques incessantes, aux clashs, à notre sursollicitation pour réagir, pour surréagir avec des likes, des pouces levés, ou voilà, et ainsi de suite. Et donc, au bout d'un moment, ben, ça crée beaucoup d'angoisse et tout ça est très bien orchestré, c'est ce que vous nous dites. Et en fait, on vit une époque qui n'aime pas la nuance.
On vit une époque qui n'a pas l'occasion d'apprécier la nuance, plutôt.
Donc ça, c'est nuancé, ce que vous venez de dire.
Voilà, mais je pense que c'est important parce que quand on réfléchit, quand on discute entre amis, etc., avec des gens un peu de bonne foi, comme dit Montaigne, il accepte, il dit « j'aime bien discuter même quand c'est un peu vif », mais avec des gens de bonne foi, avec des gens honnêtes, c'est-à-dire qui ne se payent pas de mots, qui réfléchissent ensemble. Vous savez pourquoi j'ai écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que la démocratie, enfin sans faire de grands mots, je suis désolé, mais la démocratie a besoin de débats, a besoin de trouver du dialogue, de trouver des espaces de dialogue. C'est l'essence même de la démocratie. Alors, je veux bien, bon, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui se passeraient bien de la démocratie, hein, on le voit bien. Ou il y en a d'autres qui font de la fausse démocratie, avec des conseils citoyens, des choses comme ça.
C'est la sociocratie.
Voilà, qui servent à rien et on fait semblant de demander leur avis aux gens. Bon. Or, il y a besoin de débat, il y a besoin de dialogue. Comment on dialogue ? On dialogue si on se met d'accord sur des sujets importants, parce que depuis toujours, en France, on a dialogué. Hein. C'était la disputatio du Moyen-Âge, c'était la conversation de salon au XVIIe siècle. On se mettait d'accord sur un sujet, on écoutait l'autre. On écoutait, il y avait de l'écoute. Il y a pas, on a toujours l'impression aujourd'hui que un débat, il faut qu'on parle sans arrêt. Non, il faut écouter l'autre. C'est en écoutant l'autre, en vous écoutant, que je vais me mettre à votre place, que je vais pouvoir prendre du recul par rapport à ma propre démarche et que nous allons pouvoir avancer ensemble dans un espace de dialogue constructif. Et ce que je dis là, c'est l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire trouver un espace où je puisse partager ma vision, mon point de vue, non pas mon opinion.
Et parce que vous méfiez comme Montaigne des opinions.
Hein. Voilà, exactement. Mon point de vue, j'ai un point de vue sur les choses. Montaigne, il a un point de vue qui n'est pas très apprécié, hein, parce qu'il s'entend aussi bien avec des protestants que des catholiques, et en 1587, c'est pas tellement bien vu. Mais il est nuancé, en effet. Et d'ailleurs, il arrive à se faire se parler entre eux, des protestants et des catholiques. C'est difficile parce que c'est un moment de guerre civile. Vous vous rendez compte ? En pleine guerre civile, Montaigne essaye de faire se parler des protestants et des catholiques. Aujourd'hui, où on a l'impression quand même qu'on n'est pas en guerre civile, mais qu'on est en période tendue, disons, au niveau sur le plan des idées, ben, il faut trouver des espaces de dialogue.
Pour et sauver
espace,
le débat.
Voilà, et ça passe par ce qu'on appelle la nuance, c'est-à-dire le discernement.
Voilà, il y a de très belles pages d'ailleurs sur la nuance où vous nous expliquez ce qu'est la nuance. Vous utilisez la musique et la peinture pour expliquer la nuance, en particulier pour les couleurs ou pour la façon de jouer une partition de musique. Et on comprend très très bien ce qu'est la nuance. Et puis vous convoquez Montaigne, mais vous convoquez aussi Camus. Et aussi Étienne Klein, voilà, et bien d'autres pour tout nous expliquer. Et c'est absolument passionnant et ça nous aide à réfléchir. Et J'espère que ce livre suscitera des conversations dans les familles ou entre amis ou le samedi lors des dîners. Vous restez avec nous pour quelques minutes encore, notre invité Didier Pourquerie.
Ils font l'actualité en Gironde, ils sont dans Place des Grands Hommes sur France Bleu.
Notre invité, le Girondin Didier Pourquerie, homme de la rive droite et du sud Gironde, journaliste qui a été directeur du Monde, magazine, essayiste, auteur d'un livre pour mieux comprendre l'affolement médiatique que nous vivons à grands coups de clash et d'opinions définitives. Sauvons le débat, osons la nuance. Didier Pourquerie, un parcours, une passion pour la connaissance, la curiosité et la nuance. Un mot sur le site The Conversation que vous avez évoqué très brièvement.
On fait partie d'un réseau international. C'est un réseau associatif, c'est-à-dire c'est un média associatif, mais assez puissant. Dans le monde, on fait partie des 10 plus gros sites d'information.
Gratuit.
C'est un média qui donne la parole aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, et qui est soutenu par les universités, les centres de recherche, etc. Et par les lecteurs aussi, puisqu'il y a pas mal de dons qui nous viennent des lecteurs. Et en France, c'est une vingtaine de journalistes qui travaillent sur des textes quotidiens, qui publient des textes que tout le monde peut lire gratuitement.
13 par jour, en l'occurrence.
Voilà, 13 par jour, que tout le monde peut lire gratuitement et tout le monde peut reprendre sur ces sites.
Voilà, c'est absolument formidable. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil de connaissance, de curiosité pour étancher sa soif de savoir. Voilà. Et on n'est pas forcément obligé de commenter, on peut juste lire.
Oui.
Didier Pourquerie, un mot aussi sur CapScience, parce que vous présidez ce que j'ai appelé le paquebot de la science, ici, de la culture scientifique. C'est un lieu formidable.
Alors, c'est un lieu formidable parce que c'est à la fois un lieu et c'est un lieu qui va vers les autres. C'est-à-dire, c'est, bien sûr, on va à CapScience pour voir une belle expo sur le corps et
le sport,
en ce moment, ou les maths, hein, de très belle expo sur les maths, mais c'est aussi un site qui est sur les réseaux sociaux, qui ose mettre de l'information scientifique sur TikTok, qui ose mettre de l'information scientifique.
Combien de personnes suivent
sur TikTok?
Curieux,
c'est 1 million d'abonnés sur TikTok.
1 million d'abonnés.
C'est-à-dire, il faut que vous pensiez que c'est des jeunes, c'est des jeunes collégiens en moyenne. Et ces gens-là, on leur donne gratuitement de l'information scientifique. Donc, c'est un lieu qui est ouvert et qui bouge et qui est en plus en réseau avec les autres centres de sciences de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple le centre Mendès France à Poitiers,
il y a un maillage territorial.
Un maillage territorial à Limoges aussi, et on travaille tous ensemble.
Une très belle aventure, comme le veut la tradition dans cette émission Place des Grands Hommes. Didier Pourquerie, une question qui vous a été posée, qui vous est posée par notre dernier invité, le chef Frédéric Coiffet, libre penseur, un peu comme vous, libre cuisinier aussi, il occupe une place assez singulière dans le monde de la cuisine à Bordeaux. Il est le patron d'un restaurant dans le quartier de Bacalan, le bar de la Marine. On l'écoute.
Une question de cuisinier, mais si vous étiez une recette de cuisine, quelle recette seriez-vous et pourquoi?
Alors là, la recette que j'aime beaucoup faire, c'est soupe. Et pourtant, je suis un grand fan de soupe. Et j'adore mélanger les légumes, etc. J'adore, comme on dit maintenant, travailler les légumes. J'aime bien mélanger. J'aime bien les mélanges de légumes. J'aime ce qui fait se sentir bien. Je trouve qu'une soupe, quand elle est bien faite et quand elle est légère et quand elle fait découvrir tout un tas de goûts différents, c'est à la fois réconfortant et sain et agréable. Voilà.
Et il y a beaucoup de spiritualité dans la soupe aussi.
Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord. Et donc, moi, j'aime les soupes et j'aime faire les soupes pour ma famille.
Didier
Pourquerie. J'en fais souvent.
Peut-être. Quelle soupe, par exemple?
Des soupes de potimarron, des soupes de
en fonction des légumes de la saison.
Voilà.
Une question pour notre invité de la semaine prochaine.
Eh bien, quel est, selon vous, le monde d'après? On n'en parle plus trop, c'est plus à la mode de parler du monde d'après. Le premier confinement, tout le monde attendait le monde d'après. Et vous, est-ce que vous y croyez encore?
Qu'allez-vous faire de votre dimanche, Didier Pourquery ?
En ce moment, je suis en train d'écrire, voilà. J'écris. C'est pas très original, mais j'écris. Puis je coupe du bois aussi.
C'est l'hiver. L'occasion de vous retrouver très bientôt. Voilà, le monde d'après. Espérons qu'il soit un peu plus nuancé que celui que nous connaissons aujourd'hui. Vraiment, lisez ce livre. C'est accessible. Ne soyez pas intimidés du tout par le fait que ce soit un essai. C'est un livre formidable qui dit l'époque que nous vivons, qui donne aussi des clés pour le comprendre et des clés aussi pour éviter les pièges qui nous sont tendus en général par les médias, mais aussi par les sites internet. Didier Pourquery, sauvons le débat, osons la nuance aux presses de la Cité. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci beaucoup.
À très bientôt, Didier Pourquery.
À très bientôt.
Bon dimanche et la suite de votre matinée, c'est comme d'habitude, la cabane Tchanké. À la semaine prochaine.
Place des grands hommes sur France Bleu Gironde.